Chapitre 2. Un jour d'août, Gilbert arriva au petit village de Claveronne, blotti au fond d'une combe que l'été ornait de verdure. Dans un doux ensoleillement matinal, il vit la vieille église trapue, les maisons grises, aux toits en pente rapide, disséminées le long du torrent, et les sombres vagues immobiles des sapins qui couvraient à l'ouest l'escarpement au sol tourmenté d'où pointaient quelques rocs aigus, tel un monstre figé après les cataclysmes des premiers âges. Le voiturier qui l'amenait de la gare, distante de 8 kilomètres, le fit descendre devant une auberge d'aspect archaïque, dont la façade disparaissait presque sous le feuillage mouvant d'une vigne vierge. Au-dessus de la porte se balançait une enseigne portant ces mots, en lettres un peu effacées, au-dessous d'une licorne, sur laquelle subsistaient quelques traces de dorure, « À la licorne d'or ». Une grande femme maigre, qui se tenait debout sur le seuil, s'avança sans hâte et salua tranquillement. Le voiturier lui dit « Eh, dame Robienne, voilà un monsieur qui désire se loger !» D'un rapide coup d'œil, l'hôtesse examina le jeune voyageur, si distingué, dans son correct costume de voyage. Puis elle dit paisiblement « C'est bien facile. Voulez-vous entrer, monsieur ?» Déchargez la valise, calissez, et portez-la dans la salle. » Elle précéda Gilbert à l'intérieur. En dépit de la clarté du dehors, la grande salle restait un peu sombre. Gilbert ne distingua qu'au bout d'un instant, près de l'âtre où pétillaient des troncs de sapin, une vieille femme assise, enveloppée dans une cape noire. Elle tournait vers lui des yeux encore vifs, très noirs dans le visage ridé, couleur de terre sèche. Gilbert la salua avec ce respect que lui avait enseigné son père à l'égard de la vieillesse. La femme répondit avec un fort accent courtois « Bien le bonjour, mon jeune monsieur, et vous venez comme ça voir notre pays ?»« Mais oui, madame, je compte faire aux environs beaucoup de promenades, car on m'a dit qu'il y en avait de fort belles. » Tout en parlant, il s'approchait. La vieille femme se pencha un peu pour mieux le regarder. Et ses mains, nouées par les rhumatismes, se rapprochèrent l'une de l'autre, tandis qu'elle murmurait avec stupéfaction « Mais c'est Monsieur Gilbert !» Le jeune homme, abasourdi, demanda « Comment savez-vous mon nom ?»« Votre nom? Vous vous appelez donc comme cela ? Gilbert, mais pas Gilbert de Cernaille pourtant !»« Non, pas de Cernaille, Gilbert de Clercy. » Tout à coup, il comprenait. Ce nom de Gilbert était aussi celui de son grand-père maternel. Et sa ressemblance avec lui était donc bien réelle, puisque cette femme avait cru reconnaître en lui le jeune homme qui reposait depuis si longtemps dans le cimetière de Claveronne. Il pensa aussitôt « Cela peut faire échouer mon plan. Il est possible, probable même, que d'autres, des anciens du pays, remarquent aussi cette ressemblance. » Alors l'Italien se défiera et surveillera de plus près son maître. Cependant, je n'ai pas d'autre moyen que de tenter de rencontrer M. de Cernaille par surprise. » La vieille continuait de le regarder. Pendant ce temps, Mme Robienne, inattentive en apparence, plaçait sur un trépied, au-dessus des bûches embrasées, une casserole pleine de lait crémeux. En se tournant à demi vers le jeune homme, elle demanda « « Vous désirez sans doute déjeuner, monsieur, avant que je vous montre votre chambre ?»« Mais je ne demande pas mieux, en effet, car je n'ai rien mangé depuis hier soir. » La vieille femme demanda « Et vous venez de loin, comme ça, de Paris, peut-être ?»« À peu près, de Versailles. » La vieille dit sentencieusement « Oui, c'est un grand voyage. Mon défunt mari est allé par là aussi, dans le temps. » C'était avant notre mariage. Il était valet à Cobreterre et accompagnait M. le baron et M. Gilbert dans leur voyage. De celui-là, le jeune monsieur revint marié. Une bien jolie dame qui s'ennuyait à Cobreterre. Mais M. le baron ne voulait pas entendre parler que son fils et sa bru allassent vivre ailleurs que dans le vieux château. Il était bon, mais voulait que tout se passât à son idée. Madame Robienne intervint. « Allons, maman, ces histoires du pays ne peuvent intéresser monsieur. » Et elle avançait une chaise près de la table de bois bien blanc. La vieille cligna ses paupières ridées. « Mais si, ça l'intéresse. Il est de la famille, bien sûr. Il n'y a pas des ressemblances pareilles. Jusqu'à ce petit prix des lèvres que M. Gilbert avait si souvent. Le jeune homme se sentait fort embarrassé. Que devait-il faire? Dire la vérité à ces deux femmes en leur demandant le secret? Peut-être s'en faire des alliés utiles? Il les regarda tour à tour. Elles avaient d'honnêtes visages, des yeux francs. Il se décida. Approchant la chaise, il s'assit près de la vieille femme. « Oui, vous avez bien deviné, je suis l'arrière-petit-fils du baron de Cernailles, le fils de mademoiselle Marguerite, que vous avez sans doute connu. » La vieille joignit de nouveau les mains. « Le fils de mademoiselle Marguerite? Si je l'ai connu, pauvre petite, c'est moi qui l'ai soignée après le terrible événement. Elle avait tant de chagrin, tant et tant qu'on crut qu'elle mourait aussi. » Et puis, quand elle fut guérie, on la renvoya de Cobreterre et personne de nous ne la revit. Monsieur le baron ne pouvait plus supporter sa vue. Pauvre petite jolie, elle était pourtant douce et bonne et pas jalouse, quoi qu'on ait prétendu. Pas jalouse? Oh non! Et pourtant, il y aurait eu sujet de l'être. Monsieur de Cernailles n'aimait que son petit-fils, n'est-ce pas? Rien que lui, oui, monsieur. Alors, vous pensez? Il y eut des jours terribles. On crut un moment que M. le baron allait devenir fou. Il s'enfermait dans sa chambre et ne permettait qu'à son intendant de pénétrer près de lui. L'Italien, Bartolo Clédini. La vieille femme fit de la tête un signe affirmatif. Il est toujours à Cobreterre. S'il y est, est plus installé que jamais. Depuis un an, il est veuf, mais il y a son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Ce monde-là est déplaisant, monsieur. Sauf le Bartolo qui fait le mielleux, les autres prennent des airs arrogants, comme s'ils étaient les maîtres du pays. En tout cas, ils le sont à Cobreterre. Le vieux monsieur, quoiqu'ayant toute sa tête, a été si bien pris par cet Italien qu'il s'est habitué à le consulter sur tout et à se confier entièrement à lui. Aussi, il faut penser qu'on le gruge largement. Et ce n'est pas trop tôt que l'héritier vienne prendre la place de tous ces rongeurs-là. Prendre la place, ce ne sera pas facile. Ces gens-là ne me laisseront pas arriver près de mon grand-père. Ah, ça, c'est bien vrai! Madame Robienne, qui étendait une serviette sur la table, se détourna et se rapprocha. « Il faudrait que vous puissiez rencontrer Monsieur le baron au cours de ses promenades, monsieur. Il est vrai qu'il est toujours accompagné d'un membre de la famille Clédini. Mais il suffirait peut-être que Monsieur le baron vit cette ressemblance avec le fils qu'il a tant aimé pour qu'un changement se produise chez lui et qu'il ait le courage de secouer le joug du Bartolo. C'est possible, en effet. Sort-il souvent? Non, plus maintenant. Il est bien vieux, bien affaibli. » Cependant, par les beaux temps, il va parfois faire quelques pas en forêt. Il faudrait que vous le guettiez, monsieur. Autrement, comme vous dites, les Italiens ne vous laisseront pas arriver jusqu'à lui. Ou bien, s'il n'ose pas vous refuser sa porte dans la crainte qu'on les accuse de séquestrer ce vieillard, ils le préviendront de telle sorte contre vous que vous serez mal accueilli, peut-être chassé. Mais ne risquais-je pas de voir quand même ces gens informés de ma présence? Si d'autres constatent ma ressemblance avec mon grand-père, ce ne serait pas impossible. Les gens âgés de par ici l'ont bien connu. Cependant, ils n'ont peut-être pas gardé le souvenir de sa physionomie aussi nette que ma mère, qui était femme de chambre au château et voyait par conséquent bien souvent M. Gilbert. Et puis, elle a une mémoire excellente et très bonne vue. La vieille femme eut un petit sourire content qui montra ses gencives bien lisses où les dents manquaient. « Oui, j'y vois clair, et j'ai bien reconnu tout de suite les beaux yeux, l'air fier et gentil tout de même, du défunt Monsieur Gilbert. Pour vous dire toute la vérité, monsieur, ça fait un grand plaisir à la vieille Marielle d'avoir vu le fils de cette bonne mademoiselle Marguerite et de le recevoir sous son toit. » Gilbert lui prit la main en la remerciant avec émotion. Marielle, visiblement ravie, dit à sa fille « Tu prépareras la belle chambre, n'est-ce pas? Et tu feras ce soir des gourdes pour M. Gilbert. » Madame Robienne objecta. « Il ne les aime peut-être pas? Par exemple, n'est-ce pas que vous les aimez, monsieur ? Gilbert avoua en souriant. « Je l'ignore, car je n'en ai encore jamais mangé. »«
Est-ce possible ? Il est vrai que Mademoiselle Marguerite n'avait pas grand goût pour ce mets-là, mais M. Gilbert en avalait des pleines assiettes. Clarisse, tu en feras ce soir pour que monsieur en goûte. »«
C'est bien facile, maman. Voilà le lait chaud, monsieur. Si vous voulez déjeuner... »
Tout en contentant son appétit, excité par l'air vif et parfumé des saints arômes balsamiques, Gilbert et la vieille femme parlèrent de Marguerite de Cernailles et du funèbre événement qui avait été la cause de son exil. Marielle raconta comment tout le pays avait blâmé le baron pour son injustice à l'égard de sa petite fille. Une enfant de 10 ans, on ne peut pourtant pas lui faire un crime d'un moment d'inattention. Sans compter que M. Thierry était un petit diable qui n'écoutait rien. Mais M. le baron s'était buté à son idée et il se trouvait quelqu'un près de lui pour l'y encourager. Mme Robienne, qui allait et venait dans la salle, vaquait tranquillement à son ouvrage, s'arrêta près de Gilbert.
« Si vous m'en croyez, monsieur, vous ne vous montrerez pas trop dans le village jusqu'à ce que vous ayez pu voir M. de Cernailles, pour éviter que d'autres remarquent votre ressemblance avec le défunt M. Gilbert. »
« C'était mon intention, mais ne faut-il pas y passer pour me rendre à Courbeterre ?»«
Non, on peut l'éviter. Je vous conduirai. Est-ce que vous songez à y aller aujourd'hui ?»
Gilbert jeta un regard vers le jour ensoleillé que découpait l'ouverture d'entrée de la porte.
« Peut-être serait-ce bien. Il fait très beau. S'il sortait... »
« Oui, il faudrait essayer. Eh bien, nous irons par là cet après-midi, monsieur, quand vous le voudrez. »
Elle s'éloigna pour préparer la chambre du jeune homme et Gilbert continua de causer avec Marielle de Courbeterre, de ses habitants défunts, du vieux baron, fier et autoritaire, mais si bien mené par son intendant, des Italiens qu'on regardait d'un œil défiant dans le pays.
« Voyez-vous, monsieur, le fils est encore plus déplaisant que le père. C'est un gros garçon aux yeux faux qui veut faire le grand seigneur, sans y réussir, bien sûr. Son métier, on ne sait pas au juste ce que c'est. Il s'occupe de commissions pour les pays étrangers, à ce qu'on a dit. Et puis, en même temps, il est régisseur du domaine que le comte Alzen a par ici. Drôle de régisseur qui ne me donnerait pas confiance rien qu'à son air. » Mais peut-être que le comte ne le connaît pas. C'est un grand personnage là-bas en Autriche. Quelqu'un lui a sans doute recommandé Giuseppe Cledini, qui doit être un garçon intrigant, et qui parle toujours de ses amis par-ci, de ses amis par-là. Ce n'est pas, à vrai dire vrai, que la situation soit bien conséquente. Le domaine se compose de la moitié de la forêt, dont l'autre appartient à Monsieur le Baron. En fait de logis, il y a une vieille maison quasi ruinée où personne n'habite plus et qui n'a pas bon renom. Le Giuseppe n'a donc qu'à surveiller les coupes de bois, à recevoir les rapports du garde forestier et à rendre les comptes du revenu de la forêt au bout de l'année. Comme il est souvent parti, c'est le père qui se charge de la besogne en ces temps-là. Il s'y entend, ça c'est la vérité de le dire. Ainsi, pour le domaine de Courbeterre, il lui fait rapporter gros maintenant. Autrefois, on laissait des endroits en friche un peu partout. Mais aujourd'hui, tout est bien cultivé, bien planté. Gilbert songea tout haut. C'est qu'il croit travailler pour lui. Et ce n'est pas sans lutte que je conquérais l'affection de mon aïeul et la terre de mes ancêtres.